Vous écoutez, on lit pour vous.
Donner la vie sans assurance maladie. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 9 mars 2024 dans Le Devoir. Donner la vie avec l'angoisse au ventre et le chéquier à la main. C'est la réalité vécue par les centaines de femmes qui accouchent chaque année au Québec sans couverture d'assurance maladie. Un livre numérique récemment lancé en libre accès sur la toile, mettent en lumière leur parcours en marge de la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, où naissance rime toujours avec endettement. Ce sont des mères en devenir dont la situation, déjà précaire, s'aggrave en raison d'un statut migratoire les rendant inadmissibles à l'assurance maladie. Elles sont étudiantes, travailleuses, parfois sans papier, et dès qu'elles franchissent le seuil d'une clinique ou d'un hôpital, le compteur démarre. Parcours de soins de femmes immigrantes sans accès au régime d'assurance maladie du Québec, publié par le collectif FAMSAM en collaboration avec l'équipe de recherche d'accès savoir de l'Université Laval, rapporte les témoignages de quelques-unes de ces femmes pour qui la grossesse, déjà anxiogène, devient un boulet financier. Il y a, par exemple, Fatim, qui, entre deux contractions, a vu l'anesthésiste lui demander de débourser 1 000 $ pour recevoir la péridurale. Il y a aussi Nelly, originaire du Cameroun, aux prises avec une grossesse compliquée et un bébé prématuré, qui est sortie de son accouchement par césarienne avec un enfant dans les bras et une facture de près de 100 000 $ dans la poche. Pour les 30 jours que j'ai passés à l'hôpital, le CHUL facturait 3 300 $ par jour, fois 30 jours, raconte-t-elle dans l'ouvrage. Ça a fait environ 101 700 $ et quelque chose. Une dette qui paraît insurmontable à éponger pour son mari, réfugié et étudiant, et elle, travailleuse au salaire minimum. Elle nous a raconté de vive voix son histoire, explique Marie-Pierre Landry, coordonnatrice générale de la clinique communautaire SPOT de Québec. Elle tenait son ventre en pleurant et en implorant son enfant de sortir le plus rapidement possible parce que chaque jour, la facture augmentait. Une mère ne devrait jamais devoir dire ça à son enfant à naître, c'est inconcevable au Québec. Pourtant, entre 2015 et 2022, près de 10 000 femmes ont donné la vie dans les mêmes circonstances que Nelly au Québec. Seulement l'an dernier, dans la capitale, elles ont été plus de 200 à accoucher à leurs frais. La facture totale grimpe vite dans ces cas puisque l'État accroît de 200% le prix des soins de santé pour ceux et celles qui en bénéficient sans affiliation à l'assurance maladie. Leur précarité se poursuit aussi après l'accouchement, ajoute Cathy Bordelot, intervenante en périnatalité et père aidante à la clinique SPOT. Si la maman éprouve des problèmes avec l'allaitement, si son enfant a des soucis de santé ou si elle-même a de la difficulté à se remettre de son accouchement, elle demeure dans une situation vraiment précaire, endettée et sans couverture médicale. Malgré sa cicatrice, qui devenait de plus en plus douloureuse après son accouchement, Nelly a imploré le ciel de la guérir pour éviter un alourdissement de son fardeau financier. D'autant plus qu'au retour à la maison, les factures continuaient de s'empiler dans la boîte aux lettres de la nouvelle famille, coût des échographies, des consultations données par les médecins spécialistes, des analyses en laboratoire, etc. Dans ce contexte, une prière restait gratuite, contrairement à un autre séjour à l'hôpital. Ma plaie était horrible. Ça chauffait terriblement, mais je n'osais pas aller à l'hôpital parce que je savais que juste pour les urgences, c'est 700 $, raconte-t-elle dans son témoignage. Donc, j'ai supporté en espérant que ça va finir. Ces femmes-là n'ont pas véritablement de choix, ajoute Marie-Pierre Landry. Toutes les options qui s'offrent à elles les conduisent à la précarité, que ce soit une précarité de santé ou une précarité socio-économique. Une infime minorité des femmes enceintes non inscrites à la RAMQ peuvent compter sur la clinique communautaire SPOT de Québec ou sur les soins d'un médecin du monde et des Maisons Bleues à Montréal. SPOT ouvre ses portes une journée par semaine pour prodiguer gratuitement les soins périnataux que le système public leur facture à grands frais. Ça ne peut pas être une solution, explique Marie-Pierre Landry. Il faudrait deux cliniques SPOT qui se consacrent à temps plein aux soins périnataux pour suffire à la demande, ajoute Cathy Bordelot. C'est un problème collectif et sociétal, expliquent les deux. Les besoins augmentent d'année en année. L'an dernier, les statistiques du CHU nous indiquaient que 2,5% des naissances concernaient des mères sans RAMQ. Cette année, nous sommes déjà à 3%. Qu'est-ce que ce sera dans un an? La clinique SPOT croit que la seule solution envisageable, c'est de couvrir les soins de toutes les femmes enceintes, peu importe leur statut. Ça coûterait ce que ça coûterait de faire venir trois fois les Kings de Los Angeles, lance avec ironie Marie-Pierre Landry. Travaux en finalisation. Un comité interministériel, mandaté par le ministère de la Santé pour se pencher sur la question de ces femmes enceintes sans accès au régime public, a publié un rapport en juin 2022. Il détaillait quatre solutions envisageables. Maintenir le statu quo, éliminer la surcharge de 200% pour les services d'obstétrique, élargir l'accès des femmes enceintes aux soins qui entourent leur grossesse et offrir la gratuité des services pour que toutes les futures mères, peu importe leur statut migratoire, jouissent des soins de santé québécois. Le coût de la mesure la plus généreuse, entre 16,4 et 20,6 millions de dollars par année. Nous sommes sensibles à la situation des femmes migrantes, écrit le cabinet du ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, mais il faut être attentif aux effets de l'élargissement du projet de loi pour les femmes enceintes, notamment en ce qui a trait au tourisme obstétrique. Le cabinet ajoute que différents travaux ont eu lieu à la suite de la publication du rapport, il y a bientôt 2 ans, notamment afin de se pencher sur les critères d'admissibilité et autres modalités qui seraient associées à un tel programme. Ces travaux, indique la réponse du cabinet, sont en finalisation actuellement. En attendant, au chevet de ces femmes enceintes, pour qui la joie de fonder ou d'agrandir une famille se mêle à l'appréhension d'en sortir endettée, l'impatience se fait sentir. C'est comme si tout le monde se met la tête dans le sable, déplore Evelyne Lavergne, une des infirmières praticiennes spécialisées de première ligne qui donne une journée par semaine à la clinique SPOT. C'est absolument dégoûtant, ajoute-t-elle avec colère. Ce sont des gens qui veulent s'intégrer, mais que nous condamnons à un endettement important aussitôt qu'ils fondent une famille en sol québécois. Ça crée du ressentiment aussi. Ces mères, qui parfois paient des impôts au même taux que tout le monde, se demandent pourquoi elles n'ont pas droit aux mêmes services que toutes les autres mères. C'était « Donner la vie sans assurance maladie », un texte de Sébastien Tanguay, paru le 9 mars 2024 dans Le Devoir.
Ce qui nous fascine dans les compétitions culinaires. Un texte de Rose Aimée Autonne T. Morin, paru le 6 février 2024 dans La Presse. MasterChef Québec débarque sur nos ondes tandis que Les Chefs préparent une saison réunissant ses joueurs étoiles. Pendant ce temps, les téléspectateurs peuvent aussi se tourner vers Un souper presque parfait ou le rattrapage web de Chef de bois. Qu'est-ce qui nous captive à ce point dans les compétitions culinaires? J'ai fait appel à des experts pour sonder notre psyché télévisuelle et comprendre ce qui nous plaît tant dans les duels de fouettes, de Maryse et de Soufflé. Mais je vous rassure, je ne tente pas de voler le poste d'Hugo Dumas. Vous verrez que leurs observations nous ramènent souvent à notre état de gourmand. Léa Franck est amatrice de compétitions culinaires, scénariste et autrice d'un mémoire dont le titre est « Les émissions culinaires, symptômes des sociétés hypermodernes ». Elle est toutefois gênée d'être considérée comme experte dans la présente chronique. Saluons son humilité. Ce qui m'a le plus marqué lors de ma maîtrise, c'est l'aspect paradoxal des émissions culinaires et de nos pratiques réelles. On appelle ça le food porn. Ce qu'on fait dans notre lit et ce qu'on regarde en porno, ce n'est pas toujours la même chose. Ça s'applique aussi à la télé et à la nourriture, nous dit Léa Franck. Si les chefs nous invitent à consommer des produits frais et à valoriser notre patrimoine culinaire, ce ne sont pas nécessairement des pratiques auxquelles on adhère au quotidien. On finit par se commander un Big Mac au McDo par Uber Eats, illustre la scénariste. Bien que Mathieu Charlebois cuisine beaucoup, il n'a jamais voulu recréer une recette mise de l'avant dans Les Chefs. L'intérêt de la série n'est pas là. D'ailleurs, Caroline Descostes aimerait bien savoir qui a fait la caille en sarcophage à la maison. Si c'est votre cas, écrivez-moi, je lui transmettrai le message. Le duo est à la barre de « Vas-tu finir ton assiette ?» Un site où il explore les confins de la nourriture industrielle et couvre les épisodes des « chefs », une obsession saisonnière. Selon eux, si on doit 50% du succès de la série à l'animatrice et à son non-verbal archi-expressif, notre appétit y compte aussi pour beaucoup. Je cite Caroline Descostes, qui serait connaisseuse au point d'être surnommée la Roger Brulotte des chefs. « Je vois des gens faire des choses que je ne suis pas capable de faire et accomplir leurs tâches en moins d'une heure. J'ai un sentiment de satisfaction par procuration. En plus, on est super stimulé visuellement. C'est comme si on pouvait goûter au mets. » Mathieu Charlebois y va d'une démonstration troublante. Il m'invite à regarder autour de moi. N'importe quelle affaire que tu regardes, tu peux imaginer l'effet que ça ferait sur ta langue. Tu peux deviner ce que ça goûterait, non? Il a raison. Ça goûte le besoin d'époustage. On me montre un plat gastronomique et je sais un peu ce que ce serait que de le manger, conclut le chroniqueur. Notre fibre gourmande est interpellée par les émissions de cuisine, mais les compétitions, elles, vont plus loin que ça. En tant que scénariste, Léa Franck estime que la clé de leur succès est le stress. La compétition, le décompte, les paramètres imposés aux candidats, tu es avec eux. D'ailleurs, elle consomme beaucoup de ces émissions en écrivant à une amie. Ensemble, elle s'inquiète. Voir qu'ils viennent de leur ajouter un dessert, les pauvres! Ce qui m'étonne, c'est qu'on s'engage dans la quête des participants, même si on connaît les rouages du montage par cœur. La musique dramatique, les petits incendies, qu'on finit toujours par éteindre sans heurts, les juges qui se méfient d'un plat finalement bien correct. Et si en connaître la recette rendait le genre encore plus réconfortant? L'aspect rassembleur de ce type d'émission n'est pas à négliger non plus. Caroline Descostes a donné la permission à ses filles de 6 et 8 ans de se coucher plus tard les lundis. Elles adorent regarder Les Chefs, même si elles n'aiment pas manger grand-chose. Les enfants de Jean-Michel Berthiaume, docteur en sémiologie spécialisé en culture populaire, critiquaient jadis les repas familiaux, comme le ferait Daniel Vézina. ils pouvaient rehausser l'expérience de leur quotidien grâce à ce qu'ils voyaient à la télévision, précise-t-il. Et c'est là la spécificité des compétitions culinaires, selon lui. Quand on réfléchit à la culture populaire, on parle souvent d'escapisme. On se demande ce à quoi ça nous permet d'échapper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ce qui est participatif. Et à mon avis, l'émission culinaire est ce qu'il y a de plus participatif dans le genre, nous dit Jean-Michel Bertium. Le docteur en sémiologie enchaîne les exemples probants. On ne reproduit pas les mouvements magistraux vus dans Révolution. Pas plus que Du talent à revendre ne nous donne envie de cracher du feu. La cuisine, elle, fait déjà partie de nos habitudes. On ne concoctera peut-être pas une caille en sarcophage, mais si un chef ou un juge nous explique comment mieux apprêter un champignon, ça se peut qu'on retienne ses conseils. Tu peux triper sur la présentation des repas et être alléché, mais il y a aussi quelque chose qui t'invite à donner une importance nouvelle à des ingrédients, résume Jean-Michel Bertium. Tu vas participer. Peut-être qu'au fond, ce qu'on aime tant dans les compétitions culinaires, c'est de se sentir inclus sans avoir à faire de vaisselle. C'était ce qui nous fascine dans les compétitions culinaires. Un texte de Rose-Aimée Autonne T. Morin, paru le 6 février 2024 dans La Presse.
Montrer du doigt. Un texte de François-William Croteau, paru le 24 janvier 2024 dans Le Devoir. La semaine dernière, le chef du Parti conservateur du Canada a une fois de plus usé de sa marque de commerce populiste avec des déclarations tranchantes qui ont davantage servi à attirer l'attention qu'à éclairer le débat. Avec une désinvolture devenue habituelle chez lui, il s'en est pris à la mairesse de Montréal et au maire de Québec, exposant ainsi son ignorance de la mécanique municipale. Un tourbillon de provocations et de raccourcis lui a permis de se maintenir sous les feux de la rampe, peu importe le vide sidéral de ses arguments. Au-delà du contenu même de ses propos simplistes, ce qui frappe, c'est ce qu'il trahisse, soit une tendance marquée chez Pierre Poilievre à désigner un bouc émissaire pour expliquer des situations complexes, cela en négligeant les nuances indispensables à toute compréhension approfondie. La crise du logement est en effet multifactorielle et elle requiert donc une pluralité de solutions, comme le reconnaissent les experts du domaine, qu'ils soient spécialistes en construction, en urbanisme, en économie ou en logement. Cette situation met en lumière une problématique plus large qui afflige nos débats publics. Leur polarisation excessive nous incite à désigner un coupable unique derrière nos divers problèmes urbains. Cette simplification outrancière des enjeux en occulte les causes multiples et entrelacées, contribuant à l'érosion de la nuance et du dialogue constructif dans nos démocraties contemporaines. Dans le paysage politique et médiatique actuel, les discours nuancés semblent manquer d'espace. Ils sont souvent perçus comme marqués par la langue de bois. On leur reproche leur caractère modéré, qu'on juge évasif. Au point que clarifier la complexité d'une situation pour proposer une solution réfléchie est parfois interprété comme de l'évitement, plutôt que comme le fruit d'une considération approfondie de tous les éléments en jeu. Je persiste et signe. Les problèmes complexes ne peuvent pas être résolus par des solutions simplistes. Une grande question demeure cependant. Comment échapper au cycle infernal de désignation de bouc émissaire pour chacun de nos mots? Nous avons tous, à un moment ou à un autre, succombé à la facilité des raccourcis intellectuels, trouvant là une satisfaction morale à imputer nos problèmes à une personne ou à une institution en particulier. Mais cela n'est en réalité qu'un expédient superficiel bien loin de la profondeur que commandent de tels enjeux. Le débat autour de la crise du logement illustre parfaitement comment un problème complexe peut être simplifié à outrance. Chacun a son coupable en tête. De la lenteur dans la délivrance des permis de construction au syndrome du « pas dans ma cour » en passant par les taux d'intérêt ou l'immigration. On oublie trop souvent que la réalité est faite de l'entrelacement de tous ces facteurs. Certains voudraient nous faire croire que les fonctionnaires municipaux du Canada ont conspiré pour ralentir la délivrance des permis de construction. C'est ridicule. Le déneigement offre un autre exemple frappant de notre penchant pour la simplification. Indépendamment des conditions météorologiques, des changements climatiques ou de tout autre imprévu, les maires et mairesses se retrouvent rapidement sur le banc des accusés. Le jugement du tribunal populaire est alors rapide et impitoyable. Comme si ces élus étaient directement responsables des opérations complexes tenues dans ces conditions météorologiques extrêmes. Dans ce monde parallèle, on imagine que, chaque jour de tempête, les conducteurs de chenillettes, les contremaîtres ou les élus se lèvent avec la ferme intention de mal effectuer leur travail. Le cliché « c'était mieux avant » revient comme un mantra. Quelles que soient les circonstances, notre mémoire collective est parfois étonnamment sélective. Elle est visiblement aux prises avec une nostalgie déformée devant l'incompréhensible complexité des événements. Quel soulagement c'est pour moi de ne plus avoir à gérer cela. Idem avec les nids de poules. Il est facile de conclure que les maires et mairesses négligent leurs infrastructures routières. Pourtant, là encore, la réalité est loin d'être aussi simpliste. Accuser sans chercher à comprendre les causes structurelles de ces problèmes urbains est devenu monnaie courante. Des facteurs comme le trafic intense, la dégradation naturelle des routes, les variations climatiques et même les conséquences de nos opérations de déneigement sont souvent ignorés. Dans l'espace public, le « gros bon sens » semble régner en maître, éclipsant la complexité des problématiques urbaines. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans une année marquée par des élections à haut danger aux États-Unis, préparons-nous à un déluge de doigts dressés, de coupables désignés et de raccourcis intellectuels. On pourrait penser que nous sommes à l'abri de ces tumultes au Québec, mais sommes-nous réellement si différents? Peut-être que notre aversion pour le conflit est notre seule barrière contre ce torrent de polarisation? La semaine dernière aura été révélatrice en ce sens. Les discours réducteurs sur l'immigration et la crise du logement ont mis au jour nos failles. Au lieu de nous contenter de regarder les doigts accusateurs, je nous invite à embrasser la complexité de la forêt et à apprendre à naviguer dans sa diversité. C'était « Montrer du doigt ». Un texte de François-William Croteau paru le 24 janvier 2024 dans Le Devoir.
Notre hiver printanier. Un texte d'Anne Évrit paru le 7 mars 2024 dans Le Devoir. Début mars 2024. Il bruine et il fait chaud. Trop chaud. On a enregistré le 27 février un record de chaleur. Une sorte d'ambiance éthérée enveloppe le quartier. Les gens sortent. Plusieurs sont contents de respirer le grand air après s'être encabanés quelques semaines. De mon côté, je trouve ça pesant, oppressant. À la radio, j'entends un ton guilleré affirmer « C'est génial, on peut jouer au golf ». Au revoir le ski de fond. La neige poudreuse, l'hiver, le Québec est dépossédé de son essence même. Bonne relâche, à faire quoi? Dernièrement, lors d'un souper entre amis, l'un s'est targué de vouloir aller vivre ailleurs, puisque tanné des hivers québécois déréglés. J'ai regardé l'interlocuteur. Si nous sommes rendus là, ce n'est pas une fatalité. Cela me fait penser à la pilule pour le cholestérol. Beaucoup de gens préfèrent avaler une petite pilule quotidienne plutôt que de changer leurs habitudes. C'est beaucoup plus facile. Pour l'environnement, c'est la même chose. Il est plus facile de fuir que de modifier ses comportements et d'exiger de sortir de ce système étouffant, axé sur une croissance infinie dans un monde de ressources finies. Fuyons. Comme ça, nous n'aurons pas à réfléchir. Fermons les yeux, l'intoxication sera moins brutale. Il fait si chaud. Tous les jours, je ressens un peu plus de honte en voyant les gens accepter sans rechigner toute la condescendance qui dégouline d'un gouvernement qui favorise les riches et écrase le petit peuple par coup de refus de cession de bail en pleine crise du logement, d'absence d'évaluation environnementale en pleine crise climatique, de tentative de privatiser l'électricité alors qu'on dit manquer d'argent pour le secteur public. Le gouvernement est censé prendre des décisions pour le peuple qu'il a élu, pas pour nourrir ses propres intérêts. À propos d'électricité, on ose aborder la question de remettre en fonction une centrale nucléaire au Québec, avec tous les risques bien réels pour la population. Mais qu'est-ce que cette idée surannée? Sommes-nous incapables de nous mettre au régime, de consommer moins? Où est passé le « nous »? Le vivre ensemble? Nous sommes emmurés dans notre individualisme et ça nous aveugle. Et que font les autorités par coup d'allocution et de publicité? Ils culpabilisent les individus pour qu'ils ne s'aperçoivent pas que plus haut, on ne fait rien. Sinon, pourquoi est-ce que les panneaux de publicité en bordure des autoroutes resteraient allumés toute la nuit, à longueur d'année, tout comme les projecteurs des commerces automobiles? À l'heure où l'on nous incite à réduire notre consommation, c'est outrageant. Des réglementations solides doivent être mises en place. La sobriété doit être la seule option, et ce, à tous les niveaux. Le mois de février et le début du mois de mars ne sont pas doux. Ils sont anormaux. Il faut arrêter de masquer la vérité sous de beaux apparats. Je souhaite que les citoyens se mobilisent pour exiger plus du gouvernement plutôt que de rester passifs. Que notre colère allume un feu intérieur que les dirigeants n'éteindront jamais. Il faut agir maintenant, ensemble. C'était notre hiver printanier, un texte d'Anne Évrit, paru le 7 mars 2024 dans Le Devoir.